L'un a traversé le XXe siècle, l'autre commence juste sa route. Aujourd'hui, hommage à Claude Vigée avec Anne Mounique et naissance d'un poète avec Simon Johannin.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Anne Mounique et Simon Johannin, bonjour, bienvenue à
bonjour.
Tous les deux. Grand écart temporel aujourd'hui, dans tous les sens du terme. Tout à l'heure, il sera question du poète Claude Vigée, disparu le 2 octobre dernier à l'âge de 99 ans, avec vous, Anne Mounique, qui lui avait consacré une somme vertigineuse d'écrits, critiques et autres entretiens éveillés depuis au moins une dizaine d'années maintenant à la connaissance et à la circulation de son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, avant qu'on revienne donc sur son œuvre, hein, qu'est-ce que ça veut dire que de veiller sur une œuvre? Pourquoi veiller sur celle-là?
Bien, la rencontre avec Claude Vigée a été une rencontre importante pour moi et je pense que son œuvre n'a pas été complètement perçu dans son intégralité, et j'aimerais bien, c'est pour ça, veiller sur son œuvre, c'est essayer de quand on, si vous voulez, à chaque fois que l'on travaille sur une œuvre, on découvre des choses nouvelles, et j'aimerais bien les faire connaître et restituer la cohérence de l'œuvre. Alors j'ai eu de nombreuses conversations avec Claude Vigée chez lui au téléphone, et à chaque fois j'ai appris des choses nouvelles, et je pense que nous avons échangé. J'ai moi-même une œuvre poétique, et tout à l'heure, peut-être que j'axerai notre propos sur deux mots, conscience et confiance. Ce sont des mots qui sont en assonance, hein, et en allitération, si on reprend des notions poétiques. Mais je crois qu'elles sont qu'elles fondent à la fois, si vous voulez, le nerf de son œuvre, et en même temps la façon dont les gens qui l'écoutent, qui sont séduits en quelque sorte, c'est le fondement de son partage en quelque sorte. Voilà.
Alors Claude Vigée est né en 1921, vous en 1993, Simon Johannin.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farine.
Ça va tonner sans transition, ou presque, hein, quoique, on écoute tout de suite un début du premier mouvement de la symphonie numéro 41 de Mozart, dirigé par Bruno Walter. C'est la symphonie dite Jupiter, un choix vôtre, Anne Mounique. On écoute. Qu'est-ce qu'une telle symphonie pourrait élucider de Claude Vigée à Mounique?
Alors, je vais commencer par vous lire le passage, hein, du panier de houblon, dans lequel il raconte ça. Non, c'est pas dans un panier de houblon, c'est dans la faille du regard. Justement, j'y pensais par rapport à tout ce que vous disiez l'image. C'est un article qui s'appelle « Images et paroles dans l'esthétique juive ». C'est très intéressant. Alors, je vous lis le passage. J'avais 14 ou 15 ans. Nous venions de recevoir notre première radio. C'était à la campagne, en Alsace, vers 1935. L'oreille collée au haut-parleur, j'ai absorbé en moi-même, pour la première fois, une grande œuvre symphonique de Mozart, il y a un demi-siècle de cela. Cette audition providentielle ne m'a pas découvert seulement mon propre pouvoir de créer qui était encore en germe. Elle m'a révélé avant tout, comme a dit Goethe, une forme achevée qui, en vivant, s'accroît. Dans ce paradoxe se manifeste le devenir sans limite d'un musicien de génie. Jeune adolescent, j'ai vu avec l'oreille, c'est le terme exact, comment la profondeur muette, obscure, du cœur devient tout à coup lumière, monde, extériorité pulsante. Tout tarde cette nuit, écoutant rire et souffrir mon Mozart, j'ai brûlé dans l'ultimité de son génie. Oui, c'est en écoutant la symphonie Jupiter de Mozart que le miracle a fondu sur moi comme l'aigre ou la foudre. Quel choc, quel bouleversement dans ma vie morose de collégien, etc., etc. Et j'ai acquis soudain le droit de me faire porter en avant par la volonté créatrice sur cette barque du souffle afin de me libérer avec elle, de laisser deviner en moi la voix humaine pour sauver l'existence même de l'homme à travers la parole qui le soulève et le pousse. Car c'est seulement dans la parole que l'homme accède à sa dignité véritable. Et là, c'était un jeune Claude Vigée, hein, même... Bon, disons jeune adolescente, hein. Jeune adolescente, puisqu'en 35, il avait, quelques rapides, 14 ans. Hein. Et si vous voulez, j'enchaîne avec ce qu'il a écrit dans Un panier de houblon cette fois-ci, le deuxième tome, L'arrachement, c'était en 1995.
Qui sont ses mémoires, hein.
Qui sont ses mémoires et surtout une évocation de l'Alsace, de ses parents, de sa famille, du judaïsme alsacien et de la langue alsacienne aussi. Le passage du vivant est à sens unique. Mon incarnation, c'est celle-ci et pas une autre. Depuis Zébar, Haguenau, Bischwiller, ses meubles, ses débris, ses clans, ses aïeuls, ses parents, ses rêves éveillés depuis l'origine, tout ce monde-là m'investit, spécifique et précis. Moi-même, là-dedans, dès le commencement, avec mes acquiescements, mes refus, les oui et les non qui sont les flèches à deux sens du désir humain, à travers moi sans doute, le survenant a suscité ce petit univers pour son bon plaisir, à son intention personnelle, fait également de passion et d'indifférence abyssale pour passer à volonté de la boue à la nue, du ciel à la glèbe mouillée. Ne sommes-nous pas à la fois les chauffeurs galonnés et la Rolls-Royce de luxe du Créateur lorsqu'il fait du tourisme en ce monde qu'il a créé selon son bon plaisir? Tôt guéri, jamais assez tôt, du père et de la mère selon la chair. Enfin dehors, enfin autonome, planté tout nu dans l'origine surgissante. Enfin greffé solitairement dans mon être absent de venir, sans intermédiaire parental qui déterminerait à tort la courbe et l'objectif futur de mon élan. Jaillir de la source, connaître le noyau pulsant initial et vide, seul porteur d'avenir, le désigner nommément en soi-même, le réveiller à travers les mots justes dans la conscience fraternelle d'autrui, enseigner désormais en son propre nom, avec humilité et tranquille incertitude, c'est du vivant qui parle, justement.
Merci beaucoup.
Je vais vous expliquer pourquoi je commençais par ce passage.
Je vous en prie, allez-y.
Parce que, si vous voulez, si nous partons par un rappel biographique de la vie de Claude Vigée. Nous nous apercevons qu'il est né, donc, comme vous l'avez dit, en 1921. Donc, en plus, connaissant... il a parlé d'abord le dialecte bas-alémanique, proche de l'allemand. Hein, c'est une variation de l'allemand. Donc, il entendait sur Radio Stuttgart ce qui se passait en Allemagne. Et à partir de 1933, tout le monde sait ce qui s'est passé en Allemagne. Donc, il savait. En plus, ses parents ne s'entendaient pas. Sa mère était musicienne, d'où l'importance, si vous voulez, de la musique dans son œuvre et dans l'évolution de sa personne. Sa mère était musicienne mélancolique et son père, en contraste, était plutôt le genre joyeux, hein, mais il a aussi plutôt rejeté son fils. Ce contraste-là a sûrement aiguillonné sa personnalité, l'a porté à la réflexion. Parce que bon, on fait le point. Des parents qui ne s'entendent pas, une histoire qui s'annonce comme terrible. La traversée de la Shoah. Ensuite, bon, donc l'exode avant, hein, en 1939, il était à Deauville, il n'est pas rentré en Alsace. Il savait que c'est avec sa famille et la famille de sa future femme Evelyne, ils ne sont pas rentrés. Ça a été l'exode. Il est d'abord resté un peu en en Normandie, à Deauville. Et puis ensuite, ils sont descendus jusqu'à Toulouse. Là, c'est la résistance. Et ensuite, il a appris par un ami alsacien qu'il était sur les listes recherchées par Vichy, donc l'exil. Il a fallu déjà, pour pouvoir partir, avoir tous les papiers, qu'il se démène pas mal. Donc la résistance, l'exil, il arrive au début 1942 en Amérique. Il se trouve à l'arrivée, en même temps que des gens qui venaient d'Allemagne, mais qui n'étaient pas du même bord. Donc ça veut dire qu'il pouvait croiser, en allant au réfectoire, ça il me l'a dit, des gens qui faisaient le salut hitlérien. Donc c'était, vous voyez, enfin tout ça a été d'une confusion extrême. Le chaos que nous vivons actuellement, je crois que c'est rien à côté. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'ensuite, bon, ça a été l'Amérique. Il a soutenu son doctorat en 1947. La même année, il a épousé Evelyne, qui était sa cousine germaine, si mes souvenirs sont bons. Et ensuite. Des longues années d'ennui, il revenait tout de suite pour les
vacances. Il a enseigné à l'université.
Il a enseigné à l'université dans l'Ohio, ensuite à l'université
de Boston, et ensuite il est parti à Jérusalem.
Et ensuite il est parti à Jérusalem. Mais pendant tout ce temps-là, il revenait quand même pour les vacances. Il se précipitait à Paris et à Strasbourg. Alors ce que je veux dire, c'est que vu tout ça. Il aurait pu être profondément mélancolique et il aurait pu tomber dans la pierre des dépressions. Mais le poème justement lui a permis d'opérer ce que Robert Misery appellerait une conversion, c'est-à-dire de faire en sorte d'accepter cette réalité-là et d'en montrer non pas de la rejeter, mais d'en saisir l'ambivalence. Et c'est ce qu'on trouve, ça, Alfred Dott, qui a parlé de Claude Vigée pour un petit reportage qu'on passera le jour du colloque, montre bien, dans les titres, par exemple, Le parfum et la cendre, L'extase et l'errance, cette ambivalence permanente dans la vision de Claude Vigée. Alors, à la fois, si vous voulez, il veut aller surgir vers la lumière, et en même temps, il a une notion profonde de la réalité. Et c'est ce qu'on trouve, c'est cette tension que l'on trouve dans sa poésie tout du long.
Je vous remercie. Alors, on va l'écouter, on va écouter des archives, oui. On va revenir un petit peu plus précisément sur ses premières années. Peut-être juste un mot sur ce qu'on connaît. On a lu beaucoup Claude Vigée dans les années 70, je dirais en particulier 60-70, et puis après c'est vrai qu'il a été un peu oublié en France en tout cas. Suffit de regarder par exemple les archives même de la radio ici sur France Culture, de voir à quel point il était présent. Très présent même sur les ondes, et puis après, beaucoup moins. Alors ça correspond aussi aux années où il a enseigné, où il était loin, où il a enseigné à Jérusalem, et puis sans doute pour d'autres raisons aussi. Vous l'avez dit, il y a eu ce moment donc où il a dû quitter l'Alsace, où il était à Toulouse, qui a quand même été cet endroit-là un point de bascule aussi, et un point fondamental pour la construction, fondateur même, pour l'œuvre à venir, parce que c'est à ce moment-là, dans les rangs de la résistance, justement, je pense en particulier à l'armée juive, qu'il s'est intéressé véritablement à la tradition juive, aux livres, aux textes, un peu plus tard aussi à la Kabbale, alors que lui-même avait été élevé, au fond, dans une famille certes juive, mais assez peu observante, il avait assez peu de connaissances. Au fond, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est la guerre qui l'a fait juif, d'une certaine façon, j'imagine.
Qui l'a poussé
à s'intéresser à son identité juive, en tout cas, puisque c'est à ce moment-là que.
À mon avis, c'est plus progressif et peut-être un peu plus complexe que ça.
Je
c'est pas une remarque désobligeante.
Si
vous voulez, je pense qu'il avait très tôt, justement, face à la situation familiale, où il était quand même désemparé, face à une mère qui était profondément malheureuse, un père qui se détournait de lui, il a réagi. Par exemple, il explique dans Un panier de houblon qu'il s'était construit une sorte de petit sanctuaire portatif, vous voyez, un petit tabernacle à transporter partout pour justement trouver une sorte de, comment dire, de réconfort, d'assurance de lui-même pour se presque se poser quelque part, ce lieu de nulle part, vous savez, dont il parle toujours. Et ça, je pense que c'était déjà les prémices avec la découverte du rythme qu'il a fait pour la préparation de sa bar mitzvah. Vous savez, on doit lire un texte et c'est une cantillation, c'est une sorte de le rythme intervient d'une façon prépondérante. Tout cela l'a conduit à déjà se construire un univers. Et la poésie, et les poèmes, parce que même s'il n'aimait pas l'école, hein, ça, il y allait vraiment à reculons. Il y a des très beaux poèmes où il se décrit sur le chemin de l'école. C'était difficile pour lui, mais n'empêche qu'il a écouté ses professeurs de français. Il a bien écouté les leçons. Il parle de Shakespeare. Ensuite, en philo, il a découvert Bergson,
qui était très important pour lui.
Oui et non. Ce qu'il m'a expliqué, c'est que Bergson lui a fait découvrir justement l'importance de la conscience. Hein, je disais tout à l'heure, conscience et confiance. Et ensuite, il a donc, si vous voulez, la découverte du judaïsme, l'approfondissement plutôt du judaïsme, a été de pair avec un approfondissement poétique à travers les poètes. Par exemple, quand il était à Toulouse, il a connu Jean Cassou, il a connu d'autres gens comme ça qui l'ont initié à certains aspects de la poésie, et notamment quelqu'un qui lui a fait connaître le Centaure de Maurice de Guérin. Et là, c'est vraiment pour lui un texte qui est très important, parce que ce Centaure, qui est un personnage à la fois homme et animal, qui est donc ambivalent, si vous voulez, ce Centaure, c'est une force de vie en mouvement. Quand on lit le texte de Maurice de Guérin, c'est absolument magnifique. Et ensuite, il y a eu Baudelaire. Baudelaire, dont il citait souvent, vous savez, dans le poème Bénédiction, qui est au début des Flancs du Mal, le foyer saint des rayons primitifs. Et tout ça, c'est la poétique de Claude Vigée. Alors après, viennent des notions. Pour moi, il y a deux notions fondamentales, comme je vous l'ai écrit. Il y a l'incestueux. Et ça, l'incestueux, je le relie avec ce petit sanctuaire portatif de l'adolescence, de l'enfance et de l'adolescence, parce que c'est le retour sur soi de la conscience, sans autre objet qu'elle-même. Et c'est aussi un appel du « je » vers le « tu », si vous voulez. Hein. Et c'est lié, sa fille, Claudine Singer, me l'a vraiment confirmé, c'est lié avec ce mariage avec Evie, qui était sa cousine. Retour, si vous voulez, par-delà toute cette étrangeté vécue, toute cette inquiétante étrangeté, hein, pour reprendre un terme freudien, vécue, retour à quelque chose qui était soi plus l'autre, plus l'aimer. Vous comprenez? Ça s'appelle l'inceste heureux. Et ça, c'est formidable. Et ça lui a permis aussi toute une critique de la poésie occidentale, voyez. Ne pas aller vers l'objet. Une contestation de l'image aussi. La faille du regard. Ça, c'était absolument essentiel. Et prépondérance aussi, parce que ça a été le sujet de sa thèse dans l'Ohio, de Goethe, le démonique et le rythme. Vous savez, chez Goethe, le rythme de diastole et de systole permet que monte cette énergie intérieure que Goethe, dans les conversations avec Eckermann, a appelé démonique, et qui est cette force entièrement positive. Hein, ça, Goethe le dit bien. Ce n'est pas Méphistophélès qui est un personnage négatif. C'est une force entièrement positive qui s'utilise dans la création. Alors vous pensez, quelqu'un comme Claude Vigée, tout perdu comme ça, dans les accidents de l'histoire, avec des parents qui s'entendent pas, là il y trouve quelque chose. Il y trouve une nourriture. Et cette conscience-là, à la fois poétique et... J'hésite à utiliser le mot religieuse, parce que le judaïsme, pour lui, c'est une poétique. Ça, j'en avais parlé avec lui. Je lui avais dit, quand j'avais écrit mon livre en 2015, je lui ai dit, mais Claude, pour vous, le judaïsme, c'est une poétique. Il m'avait dit oui.
Mais il le dit lui-même, hein. Il dit qu'au fond, tout poète, ou tout véritable poète,
c'est tout.
Est lié au destin juif.
Voilà.
Alors, je voudrais juste simplement, on va l'écouter.
Oui, je vous en laisse placer une.
On va l'écouter. Alors, c'est pas moi, c'est Claude Vigée. On parlait de ce que c'était que d'être adolescent, à la fin des années 2000, à peu près, si je me trompe pas. Enfin, disons, au mi-temps des années 2000. Donc, voilà ce qu'il en est d'être un enfant dans la campagne barinoise. Dans les années 20.
Je suis né en 21. Évidemment, j'ai parlé le français en famille, dans les grandes circonstances, quand on avait la visite, comme on disait, et à l'école, à partir de la dixième. Et c'est là que j'ai d'ailleurs raconté ça, écrit cela dans un de mes livres, dans La Lune d'hiver. J'ai décrit comment ma classe, enfin nous étions une trentaine de gosses à peu près, 30-35, comment s'est passée la première leçon de français. De ça aussi je m'en souviens, comme si c'était de ce matin, parce que cela m'a profondément marqué, non pas par sa drôlerie, à l'époque maintenant je vois la drôlerie, mais parce que c'est l'impact est formidable, quand on glisse tout à coup d'une langue qui était comme la nature, comme la nature profonde, le dialecte. Tout ceci est tout à coup mis au défi, nié en un certain sens, et remplacé par un monde sonore absolument étranger. Et l'expérience est vécue en groupe, avec tous les copains et les copines de ma classe d'âge. Donc c'est une expérience sociale, collective, presque un rite. Et à cause de ça, je m'en souviens tellement bien. J'ai bien compris que là, on entrait dans une... Enfin, c'était une initiation, un peu comme l'initiation dans les tribus primitives. La scarification s'est faite de l'intérieur, au lieu de nous brûler des signes magiques sur les mains ou sur le front, ou je ne sais pas où, ou sur les joues, comme dans les tribus d'Afrique, on nous brûlait les signes de l'initiation, les signes de scarification étaient à l'intérieur. C'est en même temps une brûlure et une fête, une rigolade, et beaucoup d'angoisse, car sans cette angoisse que tous les gosses qui étaient dans cette classe à ce moment-là avec moi ont dû subir, je m'en souviendrai pas. Et quand la maîtresse d'école, Madame Zimmermann, nous a dit « Mes enfants, maintenant nous allons apprendre le français », mais elle a dit ça en dialecte, puisque la plupart des gosses venant des milieux tout à fait populaires n'auraient pas... Moi je comprenais cela, puisque chez nous on parlait le français du dimanche, n'est-ce pas ? Mais la plupart des gosses de Bichwiller, dans les... classe populaire ne parlait pas le français du tout. Les enfants d'ouvriers, d'artisans, de commerçants, n'est-ce pas ? En 1926, moins de 10 ans après la fin de la guerre de 18, ne parlaient pas du tout le français, pas un mot. Alors la brave Madame Zimmermann, elle a dit ça en alsacien. Jetzt reden wir Französisch, ihr Kinder. Et alors, pour nous illustrer ça, elle nous a dit « Un lapin, ish a horse ». Au milieu de tout ça, il y avait qu'un mot de français, n'est-ce pas ? Il fallait répéter ça. Alors on trouvait ça tellement drôle qu'un horse puisse être autre chose qu'un horse, qu'on a éclaté de rire. Toute la classe s'est mise à rire. C'était comique, grotesque, inconcevable, et en même temps de la plus haute importance, une initiation magique. Surtout avec ce lapin. Pas qui est le lapin de Pâques et toutes ces histoires-là. Oui. C'est pas, oui, il faut comprendre. C'était de la magie. Et bon, c'est à partir de là. Bon, le français, comme tous ceux de ma classe sociale aussi, la petite bourgeoisie, n'est-ce pas ? Le français est devenu la chose majeure. C'était la grande affaire de nos études, ça. Il fallait absolument surmonter cet obstacle. Il fallait l'apprendre et plus que l'apprendre. Autrement, on comprenait bien que nous étions coincés entre deux mondes, là, n'est-ce pas ? Entre le monde roman, au sens large du terme, la latinité, le monde français d'un côté, de l'autre côté des Vosges, et le monde germanique dans son immensité écrasante et effrayante pour nous autres à l'époque, n'est-ce pas ? Après la guerre de 18, de l'autre côté du Rhin. Alors on était pris entre les deux, là, les gosses. Il fallait absolument s'en sortir. Et comme la pratique malheureuse et même scandaleuse des autorités était de dévaluer le dialecte à l'intérieur de l'âme des enfants, et par là même de les dévaluer à leurs propres yeux, de les nier à leurs propres yeux, puisque c'était ça leur véritable C'était ça le langage natif. C'était donc leur nativité que l'on niait. Alors, on était vraiment coincés psychologiquement. On était très inquiets, nous autres, les gosses. Ceux dont nous étions surgis naïvement, spontanément, c'est-à-dire la naissance dans le dialecte et la vie enfantine dans la liberté du dialecte, cela a été tout à coup nié et réduit à rien, à quelque chose de même pas de dangereux, mais de négligeable. C'est pire. Le mépris est toujours pire que si c'était franchement mauvais. Alors, bon, on nous aurait fait croire que c'est le diable incarné, on aurait lutté contre. Mais c'était rien. C'était simplement une petite erreur du destin qui nous avait tous ces gosses et des milliers autour de nous, fait naître, comme par hasard, dialectophones, un petit peu comme si nous naissions bègue ou boiteux ou louche ou je ne sais pas quoi. C'est ça que ça voulait dire. Quelque chose de... Enfin, on était mal foutus du point de vue linguistique. On était des infirmes linguistiques.
Claude Vigée, dans le livre alsacien de la quinzaine, c'était le 18 septembre 1978. Hein, et dans l'entretien par la suite, il parle de lui comme étant au fond une sorte de spécialiste du coincement. Donc il y aura cette langue maternelle qui est le dialecte, alors qui est l'alsacien, alors même si...
Le dialecte basalémanique.
Voilà, qui a ses particularités.
Oui.
Et il va... Et produire des poèmes en alsacien, y compris
beaucoup plus tard.
Alors qu'il est à Jérusalem, d'ailleurs entre cette langue-là et l'hébreu.
C'est vrai.
L'hébreu que lui, au fond, va parler très timidement, dit-il. Hein, pour lui, c'est une langue.
Il dit qu'il n'a pas fait l'effort suffisant et qu'il ne sera jamais un poète en hébreu.
Et donc, il y aura la langue maternelle qui est. Cette langue dialectale, et puis ce qu'il appelle, lui, la langue paternelle, hein, qui serait l'hébreu, d'une certaine
Mais
façon.
Mais entre-temps, il y a justement, au début, si vous voulez, cette langue alsacienne dans laquelle il est né, avec l'apprentissage du français, on le sent bien dans ce que nous venons d'entendre, ça a été une douleur. Et si vous avez remarqué, il a employé le mot « bègue ». Et ça, c'est extraordinaire, parce que je disais qu'il avait tout converti. Mais là, dans la faille du regard encore, hein, toujours dans cet essai dont je parlais tout à l'heure, il insiste bien sur le fait que Moïse a entendu la révélation dans le buisson ardent. Il a entendu, en quelque sorte, le murmure du silence. Le murmure est un mot extrêmement important chez Claude Vigée. Il insiste sur le fait que Moïse, redescendant du Sinaï, retranscrivant cette parole perçue pour le peuple hébreu, est bègue. Moïse est bègue. Et voyez, et donc il a un mal fou à retranscrire cette parole. Et le poète se projette, le poète écrit. Il est difficile de transposer le discours potentiel, inarticulé, encore presque silencieux de la transcendance dans la sphère de nos représentations sensibles. Oui, il est malaisé d'être poète, de saisir, puis de décrypter, de traduire, de transcrire ou d'enregistrer la voix d'en haut au moyen du langage articulé. Et un peu plus loin, il dit, et ça c'est aussi un mot qu'il a employé dans ce qu'on vient d'entendre, c'est ainsi que la parole vole intacte vers autrui, jusqu'à nous, en passant par la bouche humiliée de Moïse, homme d'Élohim, comme si elle glissait à travers les lèvres d'une blessure. Mais alors, justement, il y a une autre notion qui, à mon avis, est directement liée, et vous allez voir, je vais revenir à la langue, il n'y a pas de problème.
On n'a plus beaucoup de temps,
c'est pour ça. Voilà, qui est complètement liée à l'inceste heureux, c'est-à-dire ce retour sur soi et ce choix de soi-même, ce choix de la vie en se choisissant soi-même individu pour aller vers l'autre, c'est la circoncision de Dieu. La circoncision de Dieu, c'est à partir du sacrifice d'Abraham, qui est un sacrifice qui, grâce à la parole, grâce à la coupure du vocable, c'est dans la lune d'hiver en 1970, n'a pas lieu. La parole peut transcender le tragique, et ça c'est important. Donc la langue aussi, il a transcendé cet embarras, si vous voulez, cet aspect un peu bègue d'une langue qui dont ne sait pas que faire et qui a été détrônée pour une autre. Et Ça aussi, ça fait de lui un sujet. Parce qu'il dit, dans mon imagination, les natifs d'un langage sont nés en lui qui leur sert de berceau. Ils ne savent même pas qu'ils ont une langue. Et Claude Vigée, lui, il savait qu'il avait une langue et donc qu'il pouvait en faire un usage poétique profond. Et il a dit ensuite, dans Les Orties Noires en 1984, « Gosse de Bivillers, hors des salles d'asile, à partir d'aujourd'hui peut-être, ne vous fait-on plus honte qu'en plein de toupets dans les rues, sans respect pour les convenances, même sous les yeux des gens bien, vous osez entre vous gaiement, si le cœur vous en dit, laisser trotter au vent votre langue natale. »
Alors on va juste, avant de nous quitter, écouter justement Claude Vigée disant un extrait justement des Orties Noires. Alors il nous faudrait beaucoup beaucoup plus de temps pour en parler, mais il faut le lire.
« Von den gemurmelten Wörtern, wo längst vergessene Stimmen frier ganz leisli. »
Parfois, je crois surprendre un écho dans l'oreille de ces mots murmurés.
« So rieselt der Landreihe im Spätjahr, geduldig durch dirre Blätter. »
Que des voix de jadis,
am Rand vom gröje Laubwald,
depuis longtemps perdu, disaient presque en silence.
« Und dröpfelt dann in d'Erd. »
Ainsi, suinte la pluie de campagne en automne.
« Miesel still, wie saut. »
À travers les feuilles mortes.
Ganz tief, durchdrunde,
avec tant de patience,
schwarze Sängeselpfad,
à la lisière du petit bois de chêne gris et touffu, où le ruisseau rouge chuchote. Puis elle s'enfuit, goutte à goutte, dans la terre, à pas de sourisseau, comme fait la semence par le chemin profond, la sente aux orties noires.
Anne-Monique, Simon Joannin, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux. Je signale qu'un colloque consacré à Claude Vigée, à votre initiative et à celle de Daniela Pickstein se tiendra dimanche fin novembre, le 28 novembre si je ne dis pas de bêtises, le 29 novembre à l'Institut Élie Wiesel. Aujourd'hui à la technique Clément Daté, à la préparation Thierry Beauchamp et à la réalisation Hélène Trigueros. Vous pouvez réécouter et partager cette émission sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.